Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, Ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre.
Car sa parole, elle s'accomplira.
Laisse-moi du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu encore ce matin. Merci d'être venus pour ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Et pour ceux qui ont l'habitude de venir, merci d'être revenus. Alléluia. Nous ne prenons pas votre présence pour acquis. Amen. Donc, nous allons tout simplement continuer, puisque tout le monde a pris le temps. Beaucoup de temps d'ailleurs. Il est presque midi, mais ce n'est pas grave. Le culte commence à quelle heure? Et vous êtes venus à quelle heure? Ok, donc la semaine prochaine, ça serait mieux. Amen. Donc nous sommes dans le livre « Connaissez vos ennemis invisibles et vainquez-les ». Somebody can find it for me. Beautiful. Ça fait partie de la bibliothèque Makarios de Bishop Dag Hayward Mills. Ça fait partie des 100 livres qui se trouvent dans la bibliothèque. Après le culte, si ça vous intéresse, on peut vous offrir gratuitement le jeu électronique des 100 livres sur votre tablette, sur votre téléphone. Si vous êtes venu avec votre ordinateur, vous pouvez aussi amener. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Mais si vous voulez acheter, il y a des gens qui sont beaucoup plus traditionnels et qui aimeraient la copie dure. C'est aussi possible. Mais ça, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Donc, connaissez vos ennemis invisibles. Nous sommes dans quel chapitre? Chapitre what? 5. 25. Wow. Ok. Comment pouvez-vous bloquer les attaques grâce à l'armure de Dieu? Est-ce que quelqu'un a été attaqué une fois? Spirituellement parlant, pas physiquement. Vous connaissez les attaques spirituelles. Tout ce qui est spirituel n'est pas explicable physiquement. Quand quelque chose t'arrive et ça t'arrive en esprit, souvent il n'y a pas d'explication naturelle pour ces choses. Et la Bible nous dit que nous sommes dans une guerre. Et Dieu nous parle souvent de ça. Même le chant qui dit « soldat chrétien », ça veut dire qu'il y a une guerre. Et nous sommes dans l'armée. Lorsque tu es dans l'armée, tu te prépares pour la guerre. Même si ton pays n'est pas en guerre, l'armée est toujours prête. En tout cas, chaque pays a une armée. Pas parce qu'ils sont en guerre, mais c'est pour empêcher la guerre. Mais il y a d'autres pays qui sont en guerre. Par exemple, la Russie, thank you. Et puis qui encore? L'Ukraine. La Russie n'est pas en guerre seule contre l'Ukraine. Et puis, Israël contre Palestine. Yeah. And then who else? Qui c'est? You don't know. Me too, I don't know. Pour le moment, ce sont les deux guerres que je connais. Il y a aussi South Sudan et Sudan, ou bien, non. Il y a des guerres internes, n'est-ce pas? Pas contre les pays, mais des guerres civiles, des guerres internes. Donc, quand tu es en guerre, tu es prêt. Tu es prêt aux attaques de l'ennemi. Et la Bible dit, nous sommes en guerre. Et Dieu a pourvu pour ses enfants. Il a pourvu les armes avec lesquelles nous devons combattre. Et quand vous lisez dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, je crois que Dieu nous donne assez de protection, assez de possibilités de nous protéger, si on veut bien. Si tu es conscient du fait que tu es en guerre, tu vas profiter et prendre ces armes au sérieux. Ok, nous allons lire dans le verset 10, Éphésiens 6, à partir du verset 10, et nous allons continuer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Quand vous regardez dans toutes les armes, les armures, les armes que Dieu nous donne, vous ne reconnaissez aucune. Ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des bombes, ce ne sont pas des quoi? Des grenades. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Parce que le combat est spirituel. Le combat que nous devons mener chaque jour, la guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre spirituelle. Et nos armes sont spirituelles. Alléluia. Nous devons croire à la Bible. Le fait que vous ne voyez pas la guerre autour, vous ne voyez pas les bombes exploser, ni les gens tomber avec le sang qui coule, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre et il n'y a pas de... Ah, tu sais, casualty, des dégâts, même les êtres humains, des morts ou des blessés. Il y a des blessés, il y a des morts, spirituellement parlant. Tu peux être assis à côté de quelqu'un qui est mort spirituellement. Lui-même, il ne sait pas qu'il est mort spirituellement. Amen. Donc, nous devons être vigilants et faire très attention à ce qui se passe autour de nous. Amen. Donc, la semaine passée, on a regardé la première partie et on a vu que une arme, c'est la vérité. Si tu as la vérité, et il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Si tu as la vérité autour de toi, dans toutes les directions, tu es protégé. Et si tu as aussi la cuirasse de la justice, être juste devant Dieu, pas être juste devant toi, ni ton frère, mais devant Dieu, tu es aussi protégé. On va continuer. La Bible dit dans le verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que les chaussures font partie des armures? Et je me suis rappelé que récemment, on était à Mampong, si vous connaissez Mampong, l'école biblique. Et ma fille, on était à un mariage. Oui, yeah, mariage. Et ma fille marchait, elle allait quelque part sur le campus. Et tout d'un coup, elle marche sur un clou. She stepped on a nail. OK? Et puis le clou est entré dans son pied. Elle avait mal. On a dû chercher un médecin qui lui a donné une piqûre, beaucoup de choses. Mais on s'est dit, mais comment est-ce que ça s'est passé au campus? Mais au campus, il y a beaucoup de constructions qui se passent. Et ce sont des choses qui arrivent. Même ici, il y a des clous partout. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez aussi avoir ce même problème. Mais si elle avait une certaine paire de chaussures au pied, peut-être le clou n'allait pas entrer dans son pied. Parce que c'est passé par la chaussure et entré dans son pied. Ok? Donc, le type de chaussure que tu mets. Par exemple, si tu es en guerre, tu n'iras pas en ballerine, ni en sandales, ni en chalewote. Do you know chalewote? What do they call it? Accompagne-moi à la douche. Il y a des paires de chaussures que vous devez porter selon l'endroit où tu es. Si tu es sur un chantier, normalement tu portes des bottes dures. Si tu es aux Jeux Olympiques, vous ne portez pas des bottes, vous portez des baskets. Si vous êtes à l'église, vous portez des chaussures ou des baskets. Ou des, what do you call the white ones? Air Force. Ok. Si tu es à la mode, tu portes Air Force. Donc, il y a différentes chaussures pour différentes choses. N'est-ce pas? Si tu vas à un mariage et tu portes Air Force, it will look so nice sous la robe de mariée. Mais il y a différentes chaussures pour différentes occasions. Ici, la Bible dit que la guerre que nous menons demande un certain type de chaussure. Et ce type de chaussure s'appelle le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est quoi? C'est l'enthousiasme. C'est l'énergie. C'est la joie. N'est-ce pas? Donc, quand vous êtes dans la guerre dont Dieu parle, il faut que vous ayez aux pieds. Les pieds vous amènent là où vous voulez aller. Ici, on ne marche pas avec les mains. On ne marche pas sur... On ne se tient pas sur les bottes, mais sur les pieds, n'est-ce pas? Si tu veux aller quelque part, tu fais des pas sur les pieds. L'évangile doit être quelque chose qui nous amène partout. Et nous devons aller aussi avec un certain zèle. C'est comme ça que nous allons nous protéger dans cette guerre. Si on ne fait pas attention à ce que nous portons aux pieds, et si nous ne faisons pas attention où nous allons et le pourquoi nous allons, où nous irons, où nous... Oui, nous partons. Nous serons en danger. Et je vais expliquer. Il y a une certaine énergie avec laquelle nous devons sortir pour aller prêcher l'évangile. Avec lequel nous devons sortir pour partager l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est la parole de Dieu. L'évangile de paix, c'est le salut. L'évangile de paix, c'est l'amour de Dieu. L'évangile de paix, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sortons de nos maisons pour aller prêcher cet évangile, il y a un certain zèle avec lequel nous devons partir. Pourquoi au pied? Parce que ce sont les pieds qui nous amènent. Ce sont les pieds qui nous conduisent. Ce sont les pieds qui nous portent pour y aller. Amen. Mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle. Dans la parole de vie, c'est écrit, prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle. La manière dont tu sors va montrer aussi quel genre de chaussures tu portes. La manière avec laquelle tu annonces l'évangile va déterminer si tu es protégé ou pas. Par exemple, si tu viens à l'église et tu dors, comme je vois déjà les gens dormir, c'est que vous n'avez pas compris là où vous êtes en fait. Vous êtes en train de recevoir un entraînement pour la guerre, la formation pour la guerre. Un soldat ne peut pas dormir quand ils sont en train de recevoir les instructions. Parce que si tu dors, au moment où vous aurez besoin d'utiliser l'arme, you will know what to do. C'est comme dans l'avion. Quand les hôtesses de l'air viennent et disent, est-ce que vous pouvez suivre avec whatever, attention, les instructions suivantes, et ils montrent comment utiliser la masque, ils montrent comment attacher les ceintures. Si tu voyages souvent, tu penses que tu connais et tu ne fais pas attention, tu ne fais plus attention à ce qu'ils disent, à ce qu'elles disent. Tout ce que tu regardes, c'est la veste est sale, la manière, ses ongles sont jolis. Tu ne fais pas attention aux instructions. Are you with me? Si tu voyages beaucoup, tu ne fais plus attention à ce que la personne qui est en train de te donner des instructions te disent. Et si tu viens à l'église assez souvent, tu ne porteras plus attention, prêteras plus attention à ce que le pasteur dit. Parce que, et encore plus, encore pire, si tu as le livre, tu ne vas pas prêter attention. Parce que tu peux te dire, oh, je vais lire après. Ou j'ai déjà lu ça. Ou j'ai déjà entendu ça. Ou ce verset, je connais. Mais la vérité, c'est que tu ne connais pas. Et tu ne sais pas ce qui va te sauver un jour. Alléluia. Lorsque tu vas pour prêcher l'évangile, tu es en train de te sauver de quelque chose. La Bible dit que c'est une armure. Et cette armure sert à quelque chose. Alléluia. Si tu restes à la maison et tu ne vas pas en évangélisation, tu manques une pièce de l'armure. Une partie très importante qui pourra te sauver un jour. Amen. Comment ça? Lorsque tu prêches l'évangile avec zèle, avec ardeur, tu es en train de bloquer certaines attaques de l'ennemi. Parce que quand tu sors, souvent quand je dis aux gens, quand ils retournent au pays, je dis, la première chose que tu dois faire, c'est de t'annoncer. Annonce que tu es maintenant chrétien. Annonce que tu as changé. Annonce que les choses ne sont plus comme avant. Comme le jeune homme dans le sketch, s'il avait dit fort à son ami, je ne suis pas dans la boisson. Je ne suis plus comme avant. Il n'allait jamais s'asseoir à côté d'un ami qui lui offre, what was it? Vodka. Parce qu'il connaît, il sait qu'il est en guerre. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient de la guerre et de l'implication de s'asseoir avec l'ennemi, il ne va jamais prêcher l'évangile. S'il était assis, brother, et s'il avait commencé à prêcher l'évangile à son ami, je parie que l'ami, soit il serait parti, soit il serait converti. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors que tu pars avec zèle, comme chaussure, le zèle de la prédication de l'évangile, partout où tu vas, dès que tu t'assois devant ton ami, tu vas prêcher parce que tu es zélé, tu es plein d'ardeur, tu es plein d'énergie, plein de force. Et tu vas prêcher, tu vas dire, frère, donne ta vie à Jésus. Oui, les gens vont te prendre comme un fanatique. Oui, c'est ça ton salut. Les gens vont te prendre comme un fou. Oui, t'es bon. C'est ça ton salut. Amen. Déclare-toi déjà avec ardeur, avec énergie, avec force, avec conviction que je suis chrétien. Je crois dans la Bible. Je crois en Dieu. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est ton salut. C'est ça qui va te sauver. Mais si tu n'es pas chaud dans la prédication de l'évangile, I tell you, ils vont te convaincre. Si toi-même tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. Amen. Si toi-même tu n'es pas zélé, oh, ils vont éteindre le zèle, le petit zèle que tu as. Alléluia. Donc, à force ou par la manière dont tu sors pour prêcher l'évangile, armé de la chaussure, pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, tu es exposé. Alléluia. Le zèle montre l'importance que tu attaches à cette chose. Si tu es zélé par rapport à quelque chose, par exemple, moi j'aime beaucoup un certain club de football et ça m'intéresse ce qu'ils font. Les autres clubs, je ne suis pas trop intéressée par ce qu'ils font. Et quand le club que je soutiens joue, ça m'intéresse. Hier, la première ligue a recommencé et il y avait un match où mon équipe jouait. Donc j'étais intéressée. Ok? Et je suis en quelque sorte zélée par rapport au match où ils participent. Mais la suite ne m'intéresse pas. Même si c'est dans la première ligue. Même si ce sont des équipes, whatever. Le football en tant que tel ne m'intéresse pas. C'est le club qui m'intéresse. You see? So, tu peux dire que oh non, tu n'es pas fan de foot. Oh, tu n'es pas vraiment un fan de foot. Parce que si tu me poses une question sur série A, whatever they call the other ones, the ones you people like, là, Barcelona and those people, La Liga. I don't know anything about La Liga. Sauf que Mbappé est parti à Real. That's all I know. Je ne sais plus qui est star à Barcelona. I don't know. Donc, tu ne peux pas dire, je suis zélé, un zélé du football. I'm not. Même Black Stars, they can play here, I don't care. Mais quand mon équipe joue, I am interested, you see. Donc, le zèle montre l'intérêt que tu portes à quelque chose. Are you following me? Et le zèle avec lequel tu sors pour annoncer l'évangile va te protéger de beaucoup de choses, beaucoup d'attaques, l'énergie, la joie, la force. Alléluia. La première chose que nous allons apprendre, c'est lorsque tu es préparé à annoncer et à prêcher l'évangile avec zèle, avec l'énergie, tu vas bloquer certains démons. Amen. Tu vas empêcher certains démons de t'atteindre. Et la première chose que nous allons voir, c'est comment tu peux bloquer le manque et le besoin. All right? Si on peut lire Matthieu 6, verset 33. Le manque et le besoin. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous lisez les versets précédents, vous allez voir que Jésus disait aux disciples de ne pas s'inquiéter de demain, de ne pas être inquiété pour les choses. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais mettre? Toutes ces choses, il dit, même les païens se soucient de ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume.
C'est-à-dire, ayez le zèle pour les choses du royaume. Ayez le désir de voir le royaume avancer. D'abord. D'abord. Et quand vous faites ces choses, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Les choses qui concernent Dieu. Les choses de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, vous aurez extra. Par-dessus, tu auras. Et en plus, vous aurez encore. Donc, le manque est vaincu. Parce que vous avez eu ce désir, ce zèle de chercher premièrement les choses de Dieu. Et prêcher l'évangile, c'est chercher les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'objectif, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans cette terre ou sur cette terre, c'était pour sauver. Lorsque tu sors de ta maison pour aller prêcher l'évangile, tu es en train de dire, Jésus, j'aime ce que tu es venu faire. Je suis d'accord avec ce que tu es venu faire. Je veux participer à ce que tu es venu faire. Voici ma contribution à ce que tu es venu faire. Alléluia. Alors que tu cherches premièrement le royaume de Dieu et les choses de Dieu, il va faire de sorte que tu ne manques de rien. Est-ce qu'il y a un croyant dans cette salle ce matin? Amen. La deuxième chose que tu fais lorsque tu annonces l'évangile avec le zèle, c'est que tu permets à ce que tu ne permets pas ou tu bloques les attaques des démons concernant la tiédeur dans ta vie. Tu n'es plus tiède lorsque tu es armé d'un zèle. Ok? La tiédeur, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Je ne sais pas si tu as déjà préparé du thé et tu voulais boire le thé chaud. Et tu as un peu oublié, tu étais distrait. Et quand tu es revenu, le thé était tiède. Quand tu prends la tasse, it's not nice. Parce que tu t'attendais à autre chose. Il y a une différence entre thé glacé et thé tiède. Thé glacé, on aime beaucoup. Mais thé tiède, on n'aime pas du tout. Thé chaud, oui, on peut boire. Alléluia. Et Dieu dit, je n'aime pas la tiédeur. Je n'aime pas ceux qui ne sont ni chauds ni froids. Je n'aime pas ça. Il dit, soit tu es chaud ou tu es froid. Décide. Soit tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Tu viens à l'église, ok, quelqu'un dit, oh il est chaud. Parce qu'il va à l'église, c'est pas tout le monde qui va à l'église. Mais tu viens à l'église et tu dors. Fallait rester à la maison. Fallait rester à la maison. Parce que tu n'es venu rien faire. Tu n'es pas venu recevoir. Tu n'es pas venu contribuer. Alors pourquoi tu es venu? Dieu dit, let me say it, maybe you don't like what I'm saying. Apocalypse 3, verset 15 et verset 16. Apocalypse 3, verset 15 et verset 16. Bim, seconde. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Décide. What is that? Tu n'es ni chaud ni froid. Ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est grave, c'est sérieux. La tiédeur est quelque chose qui déplaît à Dieu. La tiédeur dans ta foi, la tiédeur dans ton service, la tiédeur dans ta participation. Tu viens à l'église, on dit, lève-toi, louer Dieu, tu es assis. Tiédeur. Tout le monde est en train de danser, tu regardes et dis... Tu es tiède. Tu es tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'aimes pas. Tu aimes pas. Tu aimes la musique. Tu aimes la danse. Tu veux participer à un ministère. Tu ne veux pas chanter. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes quoi? Les filles. Oh, pour les filles, tu es chaud. En ce qui concerne les filles, ça, tu es chaud. Quand on dit, allons-y, il y a des belles filles. Oh oui, tu en pars à quelle heure? À quelle heure? Pour ça, tu es chaud. Mais quand on dit, allons-y évangéliser, tu dis, à quelle heure? Il fait chaud à 15 heures. Il fait froid à 10 heures. Tu n'es ni chaud, ni froid pour les choses de Dieu. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de zèle. On dit, oh, allons-y à la passe. Il y a une boutique que j'ai découverte. Oh, tu pars à quelle heure? Mais ne m'oublie pas, hein? Et tu vas quand à la boutique? Tu vas quand à Accra? Je veux te suivre. Tu as acheté les mèches où? Je veux te suivre. Pour les choses de la beauté. Tu es zélé. Pour les choses de l'habillement. Les téléphones, oh, un tout dernier téléphone. Tu es chaud. C'est pas que tu n'es pas chaud. Ou tu ne sais. Oh non, mon tempérament, c'est faux. C'est faux. Quand on parle de la dot, tu es fort chaud. Tu as la bouche, tu peux parler. Mais quand on dit allons-y évangéliser, tu dis l'évangélisation, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qui est ton truc? Tu n'es ni chaud ni froid. Et Dieu dit je te vomirai. C'est fort. C'est un langage fort. Il n'a pas dit je n'aime pas ça. Il dit je te vomirai. Je ne sais pas si tu as été malade une fois, tu avais envie de rendre et ça ne sort pas. Tu vois comment c'est pas confortable. Tu as même envie de mettre le doigt dans ta bouche pour que ça sorte. Dieu dit, je te vomirai. Je te vomirai. Tu es dégueulasse dans ma gorge. Tu es terrible. Je n'aime pas ça. Je préfère que tu quittes. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Quelqu'un dit, mais je n'ai rien fait de mal si je ne suis pas parti, je n'ai pas tué quelqu'un. Tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu t'es tué toi-même. Parce que Dieu ne veut rien avoir avec toi. He's not interested in you anymore. Le zèle avec lequel tu annonces l'évangile est très important pour Dieu. Il y a des gens qui suivent, ils vont en évangélisation, mais ils ne parlent jamais. Ils ne disent rien. Ils sont toujours derrière, ils accompagnent seulement. Oh, mais je suis parti en évangélisation. Tu n'es pas parti en évangélisation. Tu es juste sorti de la maison en balade. Parce qu'il y avait light off à la maison. De toutes les façons. Le zèle. Tu sais, quand la Bible utilise des mots, ce n'est pas pour rien. Dis le zèle, l'ardeur. Is there another version? Is there another version? Ok, Bible du Semain dit la disponibilité à servir. La disponibilité, ça veut dire qu'il y a une certaine joie avec laquelle tu fais la chose. Si tu es disponible, qui veut? Souvent on demande s'il y a quelqu'un de disponible, viens aider dans la construction. On voit souvent deux, trois qui sont fidèles dans ça. Mais il y a toujours des gens qui ne sont pas disponibles, qui n'ont jamais assisté à la construction, jamais venu voir ce qu'ils peuvent faire. C'est que vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas zélé pour ces choses. Amen. Donc l'énergie, la joie, la disponibilité, l'ardeur avec laquelle tu fais l'œuvre de Dieu est important. Amen. Quand vous venez, même s'il fait chaud, si tu es intéressé, tu vas avoir une certaine disposition. Quand tu viens, tu es couché dans in the chair. C'est que tu te prépares pour le sommeil. Yeah. I
Are you with me? Mais quand je regarde, je cherche les gens qui dorment. Yeah. Et c'est mieux si tu te dresses, c'est mieux. Et c'est même mieux si tu te lèves et tu te mets derrière. Yeah. Parce que tu ne peux pas venir écouter la parole de Dieu et dormir. Je peux vous annoncer que vous n'êtes pas venu pour la musique ni pour la danse. C'est pour la parole de Dieu. Amen. Même si vous n'aimez pas la manière dont c'est prêché, c'est ça la vérité qui va te transformer. Amen. Number three. Nous parlons de prêcher l'évangile avec zèle, avec énergie, avec force, avec ardeur. C'est ça l'arme. C'est ça la protection. C'est ça qui va bloquer les attaques de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » L'apôtre Paul savait que sa vie en dépendait. Alléluia. Il dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » La raison pour laquelle ta vie est malheureuse, c'est parce que tu n'annonces pas l'évangile. Et tu n'annonces pas l'évangile avec le zèle. Il dit, la nécessité m'en est imposée. La nécessité veut dire c'est obligatoire. Je suis contraint de le faire. Il faut que je le fasse. Toi, tu le fais parce que... Si je ne fais pas, ils vont parler. Si je ne vais pas, c'est... Yeah. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, je serai malheureux, je serai triste, ma vie sera malheureuse, ma vie sera terrible si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'importance de la chaussure ou des chaussures de l'évangile qui annonce la paix, la nécessité. Est-ce que tu trouves nécessaire d'aller prêcher l'évangile? Même si tu ne sors pas d'aller à La Paz ou à Dakouman, même avec tes amis, à l'école, à la table, autour du manger, est-ce que tu annonces l'évangile? Est-ce que tu es zélé pour les choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu sont importantes pour toi? Ou tu fais juste... Beaucoup passent seulement par l'église, mais l'église ne passe pas par eux. You will understand one day. Amen. Il y a des gens qui font 4 ans, 5 ans dans l'église. Ils viennent chaque dimanche. Ils viennent, ils sont là dans des ministères. Ils sont dans les bassenta. Mais une fois retournés à leur milieu d'habitude au pays, c'est comme s'ils n'ont jamais mis pied dans l'église. C'est comme s'ils n'ont jamais servi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une conviction. Une conviction manquait. Frère, si tu ne sers pas Dieu par conviction, tu vas finir par rétrograder. Et je parle de zèle pour vous dire que c'est important. La manière dont tu sers Dieu est importante. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas rétrograder. Je ne suis pas prophète. C'est juste un fait. Un fait. Ce n'est pas le nombre d'années que tu passes à l'église. C'est la conviction que tu as dans ton cœur. Le zèle avec lequel tu sers Dieu. On ne vient pas à l'église parce que c'est dimanche. On vient à l'église parce qu'on veut rencontrer Dieu. On veut écouter sa parole, on veut être aiguisé, on veut être formé, on veut être chargé. On ne vient pas juste parce qu'il faut venir. Amen. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas un club. Ce n'est pas un groupe de socialisation. L'église, c'est la maison de Dieu où tu viens recevoir une nourriture spirituelle pour t'aider à survivre dans ce monde terrible dans lequel nous sommes. Et je suis en train de vous dire que le zèle est important. Tu ne peux pas servir Dieu et aimer les choses de Dieu si tu es tiède. On doit toujours venir t'encourager. Look, même l'apôtre, le roi David, quand il est revenu de la guerre, il a vu que toutes les femmes et les enfants ont été enlevés. La Bible dit qu'il s'est encouragé lui-même. Parfois, il faut s'encourager pour aller servir Dieu. Yeah, on ne peut pas toujours te porter sur le dos. On ne peut pas toujours te porter. Parce que tôt ou tard, tu vas te trouver seul. Un jour, tu vas être seul. Qui va t'encourager, mon frère? Porte le zèle de chaussures. Avec zèle. Dis non. Je crois que la dépression est en train de venir. Je dois sortir. Je vais évangéliser. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Ça, c'est l'armure. Contre ces attaques. Si je prêche l'évangile, je suis zélé de ces choses. Dieu va aussi m'aider. Are you with me? Is that somebody following me? Tu ne peux pas être tiède. Tu ne peux pas juste venir à l'église parce que tu aimes Aquaba Ladies, parce que tu aimes l'uniforme qu'ils ont choisi aujourd'hui, donc tu vas venir. Et tu ne viens pas quand tu n'aimes pas l'habillement qu'ils ont choisi. Tu ne peux pas. Dancing Star, tu ne peux pas venir parce qu'ils ont dit on va danser Church des Suites. Oh, Church des Suites, c'est un vieux chant. Moi, je n'aime pas la musique. Je ne vais pas danser. Amen. Le zèle, l'ardeur, la joie, l'énergie. Tu conserves ton énergie pour les bêtises. Je tire? Je ne tire pas. Number four. Lorsque tu prêches l'évangile et tu es préparé. Préparé aussi veut dire que tu t'investis dans ces choses. Lorsque tu t'investis dans la préparation de l'annonce ou d'annoncer l'évangile, tu es en train de bloquer l'ennemi d'empêcher l'église de grandir. Parce que, look, l'ennemi ne veut pas que l'église grandisse. Voici, nous sommes en train de construire une belle église. Mais il y a encore de la place, beaucoup de place. On a essayé d'arranger pour que ça ne soit pas trop vide. Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Alors que nous sortons pour prêcher l'évangile, nous sommes en train de nous combattre contre une église vide. C'est nécessaire. Prêcher l'évangile est nécessaire pour remplir l'église. Et c'est une arme contre une église vide. L'ennemi ne veut pas que l'église soit remplie. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dieu veut une église remplie. Parce que les âmes sont en train de se perdre quelque part. Dans quelques heures, vous allez voir le bar d'à côté. Boum, 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 boum. Un dimanche. Ils vont suivre le match. Un match aujourd'hui, je crois. Chelsea-Manchester City. Ils vont faire du bruit. Mais est-ce qu'ils sont partis à l'église? On ne sait pas. ton frère que tu as laissé à la maison en train de dormir. Tu ne te soucies pas de son état, s'il ira en enfer ou pas. Il est sorti hier, il est revenu ce matin à 6 heures. Tu ne te soucies pas de son âme. S'il meurt, il va en enfer, ce n'est pas ton problème. Parce que toi, tu iras au paradis, c'est ça, non? Le zèle annoncé. Il faut que les gens nous voient comme des fanatiques. Je suis désolée. Il faut qu'ils te voient comme bizarre. Parce que la Bible dit que nous sommes une sacerdoce royale. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne pouvons pas être comme les autres. Il faut qu'ils nous voient bizarre. Je suis désolée. Si tu veux être accepté de tous, tu ne peux pas servir Dieu. Tu veux que les gens te voient comme normal. Tu n'es pas normal. Dis à ton voisin, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu peux reconnaître quelqu'un qui n'est pas Ghanéen par son accent, par son comportement. C'est normal parce qu'il n'est pas du Ghana. C'est normal. Même s'il commence à dire tchalé, tchalé, même son accent va te dire que ce n'est pas un Ghanéen. Tu peux toujours détecter. Juste comme tu peux aussi détecter qui n'est pas Gabonais, qui n'est pas Congolais, qui n'est pas de la RDC. N'est-ce pas? Par les accents, par le comportement, tu peux dire, ah non, il est West-Africain, il est East-Africain. You can tell. Souvent on dit que les East-Africains, ils ont un front différent des West-Africains. On peut voir. Non, ça c'est un... Ils viennent du Kenya, soit de l'Afrique du Sud. Un Ghanéen ne peut pas avoir une tête comme ça. Souvent on peut dire, n'est-ce pas? Et quand tu es en Christ, quand tu es chrétien, tu es différent. Et ils doivent être capables de détecter que toi tu es un peu différent des autres. Si on ne voit pas que tu es chrétien, c'est que tu t'es trop conformé. Tu ressembles trop au monde. Tu ressembles trop au monde. Tu manques le zèle. Tu manques l'énergie. Tu manques la joie. Tu manques le feu. Tu manques le feu. Why are you standing up? Asseyez-vous. Tu manques le feu. Le zèle, l'énergie, la joie même. On ne peut pas forcer un chrétien d'aller évangéliser. C'est comme un enfant dit, va nettoyer ta chambre. Tu ne veux pas bloquer l'ennemi. Tu ne veux pas empêcher l'ennemi d'agir dans ta vie. Porte les chaussures. Pas les babouches. Pas les... Va avec moi à la douche. Accompagne-moi à la douche. Alléluia. Am I talking to somebody this morning? I don't even know where I am again. Look, this book is very, 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 very good. Tu veux ça en anglais? Tu peux avoir ça en anglais. Sur ton téléphone. Anglais, français, espagnol, dis-moi seulement. Gratuit. Il faut supprimer les photos bizarres que vous avez. Vous aurez l'espace. Vous aurez l'espace. Je n'ai pas d'espace sur mon téléphone. Photos bizarres, films bizarres que vous avez download, téléchargé. Where am I? I don't even know where I am again. Got a book. What a book. Porter les chaussures. Préparation de l'évangile. Annonçons l'évangile. Et nous allons bloquer les attaques de l'ennemi. Let me quickly move on. The next verse, Ephésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Next one, 16. Prenez par-dessus tout cela, keep making that mistake, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits, les flèches que l'ennemi est en train de lancer dans ta direction vont te tuer. Vont te tuer. Et si tu n'as pas la foi pour éteindre ces flèches, tu vas mourir. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne savais pas que la foi, c'est une arme avec laquelle tu combats l'ennemi. Mais c'est aussi la chose qui te garde dans les... In English, we say, in the good books of God. Bonne grâce de Dieu. Are you with me? La foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'es pas dans ses bonnes grâces. Si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas dans les choses de Dieu, tu ne crois pas dans sa parole, tu ne crois pas dans ce qu'il dit, tu n'es pas dans ses bonnes grâces. Et si tu n'es pas dans ses bonnes grâces, pourquoi est-ce qu'il fera quelque chose pour toi? Quand j'ai la grâce de voyager, quand je reviens, je pense à certaines personnes qui sont dans mes bonnes grâces. Moi qui suis rien du tout, je ne suis personne. Mais pour moi, c'est important de montrer que certaines personnes sont dans mes bonnes grâces. À plus fort, Dieu, quand tu es dans ses bonnes grâces, il va toujours faire quelque chose pour toi. Amen. Et si tu n'as pas la foi c'est quoi? C'est la croyance. Tu dois croire en Dieu. Et si tu crois en Dieu, crois en sa parole. Ne crois pas en Dieu seulement quand tu as besoin de quelque chose. Oui, nous exerçons notre foi seulement quand nous avons besoin de quelque chose. Oh Seigneur, j'ai des examens. Oh Seigneur, j'ai foi que tu vas m'accompagner dans la salle pour écrire. Il va t'accompagner où? Pour faire quoi? Quand il voulait que tu ailles en évangélisation, tu es parti. C'est là où il devait t'accompagner en évangélisation. Are you with me? I'm almost done. Don't worry. Je veux bien descendre, mais il fait chaud en bas. Are you with me? C'est la foi qui va bloquer les flèches. Chaque armure a un rôle à jouer. Chaque armure. La foi bloque. Dis quoi? En toutes circonstances, verset 16, prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un trait enflammé, c'est comme... Have you watched a film where they are shooting bows and arrows? Maintenant, the arrow is enflammé. Il y a une flamme au bout de la flèche. Et la Bible dit, c'est par la foi que tu vas éteindre toutes ces... Parce que... Que tu veux ou non, les flèches sont en train de venir. They are coming. Tu dis que tu as déjà expérimenté une attaque spirituelle. Oui. Et si tu n'as pas la foi, ils vont continuer à venir. Les attaques viendront toujours. Mais c'est par la foi que tu vas les éteindre.
c'est par la foi que tu vas faire des déclarations. Aucune arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tu vas faire des déclarations par la foi. C'était hier qu'on priait par la foi. C'est une Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Give me an easier version. Change the version, please. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité, de ce que l'on ne voit pas. It's like paradoxical. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Mais si tu espères, tu n'es pas encore sûr. Si tu espères, oh, j'espère qu'un jour j'irai aux États-Unis. Tu n'es pas encore allé. Mais la Bible dit que la foi, c'est être sûr que tu es déjà allé. Et c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas encore. C'est par la foi que tu peux déclarer « Je suis marié » et être convaincu par la foi. Et la Bible dit que c'est cette foi qui va éteindre les flèches de l'ennemi. L'ennemi qui dit « Tu ne vas jamais te marier. Je vais me marier par la grâce de Dieu. Je déclare que je vais me marier. Je déclare que je serai heureux. Je déclare qu'il y aura un garçon qui va payer la dot. » De 4 millions, j'ai la foi que Dieu va me donner un mari capable de payer la dot de 4 millions. Si mes parents exigent, j'ai la foi. C'est par la foi, c'est par la foi que nous allons bloquer l'ennemi. Amen. Et par la foi, nous allons plaire à Dieu. Alléluia. Are you there? Par la foi, tu vas bloquer la pauvreté aussi. Pourquoi? Parce que tu vas croire dans la parole. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire ça. Dis que moi, je prospère à tout égard. Tu connais ma famille. C'est que la flèche t'a eu. La flèche t'a eu. Tu n'as pas eu la foi de bloquer cette pensée que tu ne seras jamais prospère. Et dans ma famille, on ne construit pas haut. Tu as permis à ce que la flèche t'atteigne. Dans ma famille, le mariage, les gens ne marient pas. Et même s'ils se marient, ils divorcent. Tu as permis à ce que la foi, les flèches t'atteignent. Alléluia. C'est toi qui vas dire non. Moi, je sais que je vais me marier. Je sais que je vais fêter 50 ans de mariage. Je sais que je vais fêter 30 ans de mariage. Par la foi. C'est. Go back. Hebrews 11:1, please. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Et c'est par cette foi en Dieu que tu vas éteindre les flèches de l'ennemi. Amen. Les flèches enflammées. Les traits enflammés, les flèches enflammées. La Bible du Semeur dit, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable par la foi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La foi peut éteindre toute flèche enflammée. Le feu détruit, mais la foi éteint le feu. Amen. Tu dois avoir foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu as toujours besoin de voir avant de croire, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne montre jamais ce qu'il va faire. Il montre son amour, il montre sa miséricorde. Tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance par la foi. Le juste vivra par sa foi. Amen. Next, armure. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourrais pas aussi empêcher les démons de la difficulté d'entrer dans votre vie. C'est par la foi que nous allons marcher dans la joie. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent qui et se soumettent à qui? À qui? À qui? À quand si son lumière, je n'entends pas. À Dieu. À Dieu. Alléluia. Et si ils n'écoutent pas Dieu et ils ne se soumettent pas à Dieu, c'est-à-dire par la foi. Parce que tu écoutes Dieu, c'est par la foi. Parce que si je dis que Dieu est en train de te parler, c'est par la foi. Parce que tu me vois en train de te parler. Comment est-ce que c'est Dieu qui te parle? Par sa parole. Alléluia. Donc, si tu écoutes et tu te soumets à cette parole, la Bible dit que tu vas achever tes jours dans le bonheur et tes années dans la joie. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas et tu ne te soumets pas, tu ne vas pas achever tes jours dans le bonheur. Ou bien, s'ils écoutent conditionnel et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Donc, s'ils n'écoutent pas et ne se soumettent pas, ils n'achèvent pas leur jour dans le bonheur. Ou ils achèvent le jour dans le malheur. La foi. Par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Amen. Marc 11, verset 24 dit. Marc 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est la foi. Et vous le verrez s'accomplir. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais croire que ce que tu as demandé dans la prière, tu vas recevoir. Tu ne vas même pas prier. Tu ne vas même pas prier parce que tu n'as pas la foi. Et si tu ne pries pas et tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Parce que la Bible dit que tu auras ce que tu dis. Alléluia. Tout ce que je suis en train de dire pour ceux qui dorment, c'est que vous devez avoir foi en Dieu. Et vous devez croire que ce que Dieu a promis dans sa parole, il va le faire. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu crois en Dieu, il ne va pas te décevoir. Et croire en Dieu n'est pas juste de dire, oh je crois. Exerce ta foi. Je ne sais pas quand est-ce que j'avais dit que beaucoup disent, quand ils sont malades, oh, malade grave, maladie grave. Par exemple, le cancer. Oh, Dieu va me guérir. Oh, Dieu va me guérir. Il est à l'hôpital. Prie pour moi. Dieu va me guérir. Mais quand tu avais mal à la tête, tu n'as pas cru que Dieu allait te guérir. Tu as cru que c'est le paracétamol qui allait te guérir. Souvent, le chrétien a plus confiance dans le paracétamol qu'en Dieu. Le panadol. Si tu fais plus confiance au panadol qu'en Dieu,
pour la maux de tête. Frère, c'est pas le cancer qui va se guérir. Amen. Nous devons commencer par exercer notre foi dans les petites choses. Dans les petites choses. Si Dieu le dit, il va le faire. S'il dit, le bonheur et la joie accompagneront ceux qui me servent. Il faut croire. Il faut le croire. La dépression, tu ne peux pas avoir foi que Dieu va te guérir de cette maladie, de ce démon de dépression. Comment il va te guérir d'un cancer? Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Exerce ta foi. Et il va te surprendre. Alléluia. Servez Dieu avec foi. Mettez les armes qu'il vous a données pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les jours sont mauvais. Et le diable va utiliser toutes les manières possibles. Toutes les armes qu'il connaît. Alléluia. Are you with me? Dieu t'a déjà donné la victoire. Marche dans cette victoire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Parce que la guerre a été, how do I say, the battle has been won. Le combat a été gagné. Mais tu dois exercer ta foi. Et tu dois marcher par la foi. Et tu dois faire confiance en Dieu. Alléluia. Parce que tu as déjà vaincu. Tu es déjà plus que vainqueur. Alléluia. Si tu marches par la foi. Amen. Stand to your feet. Stand to your feet. Tu vas lire après. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Alléluia. Commencez à prier. Dis, Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir fait confiance en des armes que tu m'as données. Je croyais que j'avais besoin d'autre chose. Maintenant, j'ai compris que les armes que tu me donnes sont efficaces. Donne-moi, Seigneur, la foi de pouvoir mettre confiance dans ces choses. Oui, d'exercer ma foi. D'exercer ma foi. De croire que tu es capable de faire tout ce que tu dis. Seigneur, je veux exercer ma foi en toi. Je veux marcher avec les pieds, les chaussures de l'évangile aux pieds. Seigneur, je veux t'obéir dans ces petites choses pour pouvoir recevoir les grandes choses. Seigneur, merci. Prie pour toi-même, prie pour ta marche avec le Seigneur. Prie pour que tu puisses utiliser les armes qu'il t'a données. Prie pour ne pas mépriser les armes qu'il t'a données. Prie pour apprécier toutes ces armures, toutes ces choses qu'il t'a dit dans sa parole. Prie afin que tu apprécies, que tu as gagné, que tu apprécies la réalité de comment servir Dieu. Prie, prie pour toi-même, prie pour ton cœur, prie pour la foi, prie pour exercer ta foi en Dieu. Prie contre la tiédeur, prie, dis Seigneur, je suis tiède, je reconnais, je sais que je ne suis ni chaud, ni bouillant, ni froid. Seigneur, je sais que je risque d'être vomi de ta bouche, je ne veux plus être tiède. Donne-moi ce zèle, cette ardeur de te servir, donne-moi la joie, l'énergie, la force de pouvoir te servir en toutes choses. Donne-moi le courage d'être bizarre devant les autres, d'être différent des autres. Je veux être mise à part pour te servir. Seigneur, merci. Merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci parce que je suis plus que vainqueur. Merci parce que j'ai gagné. J'ai gagné. Et je fais partie de l'armée de Dieu qui a gagné. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci d'augmenter notre foi de jour en jour. Nous partons d'ici encouragés que la guerre est finie. Nous avons vaincu. Même si les batailles de tous les jours vont continuer, nous savons qu'à la fin, la guerre, nous sommes ceux qui ont la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes victorieux. Seigneur, merci encore. Quelle joie d'être de ton côté, de ne pas être de l'autre côté. Merci encore, Seigneur. Merci. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Aujourd'hui, je veux te donner une opportunité de lui dire merci. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci d'avoir payé le prix. Merci de m'avoir arraché des mains de l'emprise du diable. Seigneur, je te remercie. Je veux te poser une question avant de m'asseoir. Si tu meurs ce soir, mon frère, est-ce que tu iras en enfer ou tu iras au paradis? Ces deux endroits sont des endroits réels, selon la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu ne dit pas des choses pour blaguer. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas sauvé, tu ne pourras pas entrer en l'éternité. Et tu ne pourras pas entrer au paradis avec Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois être sauvé. Comment est-ce que tu seras sauvé? Romains 10, verset 9 et verset 10. Dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Je veux te poser la question encore. Si tu meurs ce soir, où iras-tu passer l'éternité? Si tu veux aller au paradis et tu veux être sauvé cet après-midi, j'aimerais t'encourager à lever la main droite et dire, pasteur, je crois que je ne suis pas sauvé. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, j'irai au paradis. Je ne sais même pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne savais même pas qu'il y avait un livre de vie. Je ne savais pas que je devais naître de nouveau. Aujourd'hui, je te dis que les choses que Dieu dit dans sa parole sont vraies. Si tu meurs sans le Seigneur, tu iras en enfer. Je veux t'encourager à accepter de répondre à l'appel et donner ta vie à Jésus. Si tu veux naître de nouveau et tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, je veux t'encourager à lever la main droite. La Bible dit que Dieu aime sa création et il ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. Il a envoyé son Fils mourir pour nous, payer le prix. Mais tu dois l'accepter. Tu dois dire, je reconnais que je suis pécheur. Tu dois l'inviter dans ton cœur. Et l'inviter dans ton cœur veut dire, tu dois confesser de ta bouche. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Lève seulement la main droite. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Lève la main droite, je veux prier avec vous. N'aie pas peur de donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte d'accepter que tu es pécheur. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé, mon frère. Être sauvé, c'est d'avoir confessé ses péchés, d'avoir accepté Jésus. Je fais un dernier appel. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux accepter son salut, son pardon. Tu veux marcher dans son amour. Tu veux recevoir son pardon. Lève la main. Lève la main. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? All right. Let us pray. Père éternel, nous te disons... Oh, ok. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encourager les frères? Nous allons prier. Si tu peux répéter après moi. si tout le monde peut fermer les yeux. Tu veux accepter Jésus, ce n'est pas trop tard. C'est important que tu le fasses. Parce que ça montre que tu n'as pas honte de ta décision. Tu veux venir, tu peux venir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Dites après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour mes péchés. Cet après-midi, je confesse devant cette assemblée que j'ai péché contre toi et je te demande pardon pour mes péchés. S'il te plaît, lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te servirai pour le reste de mes jours. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te suivrai et je te servirai pour le reste de ma vie. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. C'est fini entre toi et moi. À partir de cet instant, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé et je suis vraiment sauvé. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour, je ne retournerai plus. Je suis enfant de Dieu et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus pour mon salut. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone-Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone-Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone-Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.